Loïc Tassé, spécialiste des questions internationales. Bonjour Loïc.
Bonjour.
D'abord, une mauvaise nouvelle qui m'attriste personnellement vraiment beaucoup. Là, le sénateur John McCain, sénateur de l'Arizona, donc qui combat un cancer du cerveau très, très virulent depuis plus d'une année, ben sa famille a annoncé qu'il allait cesser d'être traité pour sa condition, ce qui laisse entendre qu'il n'en a seulement que pour quelques jours, peut-être même quelques heures.
Oui, McCain, qui a 81 ans et qui a été un grand héros aussi de guerre, il a été fait prisonnier, il a lutté, il a toujours été très ferme dans ses principes et il s'est tenu debout contre Trump à certaines reprises. Eh bien, McCain, en effet, semble plus en avoir pour très très longtemps à vivre. C'est quelqu'un qui était très très aimé chez les républicains, très respecté, je te dirais, aux États-Unis.
Chez les Américains de façon générale.
C'est ce que j'allais dire. Aux États-Unis de manière générale.
Et
si tu veux, tout le monde s'attendait un petit peu à cette nouvelle. On ne savait pas quand ça arriverait, malheureusement.
Moi, je vais te dire, là, j'ai toujours considéré d'abord, écoute, ce gars-là, là, il a été prisonnier du Vietnam du Nord, donc pendant 5 ans,
oui.
Il a subi des tortures à répétition. Quand il a été libéré, il est arrivé tout cassé aux États-Unis. Encore aujourd'hui, là, il n'était pas capable de lever ses bras plus haut que la hauteur des épaules parce que à cause des fractures qu'il avait subies et de tous les sévices corporels qu'il avait endurés. Mais moi, c'est quand il a mené le combat pour la réforme du financement des partis politiques aux États-Unis là, pour essayer de sortir les special interests, les lobbies, qui achètent littéralement des politiciens en finançant leur caisse électorale. Il a vraiment fait un effort. Il a pas vraiment réussi, malheureusement.
Non.
Ça s'est un petit peu amélioré, mais pas sensiblement. Mais c'est là que j'ai vu que ce gars-là était prêt à se battre vraiment pour l'intérêt public. Là. Il n'a pas fait que du bien, McCain. Là. Il a pris fait et cause pour des causes avec lesquelles moi, je trouvais pas qu'il était du bon côté de l'histoire. Mais de façon générale, un homme
droit et honnête.
Ah, voilà.
Je pense qu'on peut dire ça.
Ah, voilà.
On peut ne pas être d'accord avec lui sur certaines de ses positions, mais il était droit et honnête.
Si
tu veux, les États-Unis en ont bien besoin en ce moment. Par contraste avec ce qui est en train d'arriver avec Trump, et je ne sais pas si tu as vu, mais ça vient de sortir avant midi, mais le chef des finances de l'organisation de Trump, M. Westing, quelque chose comme ça, enfin écoute, vient de...
pas Wesselberg?
Wesselberg, voilà, Wesselberg. J'avais un trou de mémoire,
très
merci.
Très bien, Wesselberg.
Écoute, il vient d'obtenir l'immunité pour témoigner en justice, et on se doute bien que ça va être contre Donald Trump.
Ça, c'est le cerveau de l'empire de Trump, là.
C'est le cerveau financier.
Ah, absolument, absolument. Si c'est pas de Wesselberg, pas sûr que l'empire, appelons-le comme ça, de Trump, serait même fonctionnel. C'est vraiment le cerveau. Alors, ce gars-là, c'est tout.
Il sait tout. Et on se rapproche dangereusement de la piste russe. Et je te l'ai souvent dit, le problème, c'est qu'est-ce que Trump a fricoté avec les Russes, en particulier avec les richissimes Russes, les milliardaires Russes qui étaient aussi en Ukraine. Qu'est-ce qu'il a fricoté avec eux? On ne le sait pas parce qu'en plus, on n'a pas son rapport d'impôt. Il ne l'a jamais publié.
Exact.
Mais on se doute qu'il est possiblement en conflit d'intérêts et peut-être même qu'il a commis des actes illégaux. Parce que tu sais, Cohen, c'est un bandit, il a plaidé coupable. Manafort,
c'est un bandit.
Il a plaidé coupable. Il y en a d'autres, là. Puis là, tu dis, écoute, c'est parce que tu tiens pas mal avec des gens croches, mon cher Donald. Alors, l'étau se resserre tranquillement. Et Trump, on sent qu'il est en train de paniquer en ce moment.
Ben oui.
Ben d'ailleurs,
il s'en prend à son ministre de la Justice.
Il s'en est pris à son ministre de la Justice, Jeff Sessions. Il s'en est pris hier à son ministre de la Justice, alors qu'on était en onde. Et il a dit à son ministre de la Justice qu'il était pas capable de contrôler le ministère de la Justice. Et là, Jeff Sessions a répondu, écoutez, non, je peux contrôler le ministère de la Justice. Non seulement je le contrôle, mais en plus de ça, tant que je serai en place, il n'y aura pas d'influence indue de la politique dans le ministère de la Justice.
Et ça, c'est une déclaration très importante. D'abord, sur le plan institutionnel, ça veut dire que le ministre de la Justice est prêt à jouer son rôle, respecter les institutions, protéger les institutions. Mais c'est aussi que Jeff Sessions, ça a été quand même un des premiers alliés de Trump quand il s'est lancé à la présidence. Et là, Sessions qui dit « Je vais te tenir tête et si tu n'es pas d'accord, tu me foutras à la porte. » Moi, ce que ça me dit, c'est que Sessions sait des choses. Et il pense que c'est son devoir de protéger le système de justice parce qu'il peut deviner que les carottes sont cuites pour Trump.
C'est très possible. Et tu sais, on parlait de personnes qui se tenaient droit avec John McCain. Ben, on a peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de se tenir droit, même si on peut ne pas être d'accord avec lui sur bien des points. C'est Jeff Sessions. Mm. Et c'est ça que les électeurs attendent des élus. C'est ça qu'ils attendent de leurs représentants, que les gens se tiennent debout, qu'ils voilà. se tiennent droit. Et je pense que c'est ça qu'on est en train encore d'avoir. Et aujourd'hui, Trump a fait un nouveau tweet contre Jeff Sessions en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des gens qui sont condamnés pour rien du tout, entre autres une femme qui avait tiré la langue, qui avait envoyé, qui avait publié un rapport secret sur l'intrusion des Russes dans la campagne électorale. » Et il dit « Ouais, c'est ça, Jeff. Et qu'est-ce que tu fais avec Hillary Clinton ? Rien du tout. » Alors que c'est pas du tout la même chose.
Il est vraiment en train de péter la coche, là.
Oui, oui. Hillary Clinton, c'est une affaire de courriel dont il parle. Il n'y avait pas d'intention frauduleuse derrière. Elle aurait effacé des courriels puis elle les a tenus sur son propre serveur. C'est ça l'histoire, le fond de l'histoire d'Hillary Clinton. Est-ce qu'elle devrait être en prison pour ça? Pense pas, moi. Mais, et puis c'est derrière ça aussi, il y a la question de savoir si les représentants, les élus, doivent être soumis à des réglementations qui sont faites par des subalternes. Il y a aussi cette question-là. Je ne veux pas rentrer là-dedans nécessairement, mais c'est pour te dire, il est en train de péter une coche, comme tu disais, vraiment.
Et de perdre le contrôle.
Il est en train de perdre le contrôle et de faire diversion.
Alors, ouais, voilà. Parlons un petit peu de la Corée. Hein, la Corée du Sud qui vendrait à la Corée du Nord du matériel interdit par les sanctions?
Ah ben oui, qui en vend et qui s'en est vanté presque. Pas grand-chose, hein. C'est pour à peu près un peu plus d'un million de dollars canadiens. Mais ils ont vendu du nickel, du cuivre, de l'acier, des bouilloires industrielles, j'imagine. Et c'est interdit. Ils ont contourné complètement les sanctions de l'ONU.
Alors, quand on pense que c'est la Chine qui fournit par la porte d'en arrière le matériel qui permet à la Corée du Nord de continuer à fonctionner, on se rend compte que c'est finalement peut-être plus la Corée du Sud.
Écoute, la Corée du Sud et le gouvernement sud-coréen dit « Oh, mais vous savez, en fait, ça va pas vraiment aider économiquement la Corée du Nord, donc ça compte pas vraiment. Et puis, de toute façon, c'est pour notre personnel là-bas, ça va les aider, ça va faciliter leur vie. » Mais qu'est-ce que vous racontez là? De toute façon, c'est pas une question de quantité. Vous contournez ou vous contournez pas les sanctions? C'est pas quand est-ce que ça commence à compter à 10 millions, à 100 millions?
Moi, j'ai l'impression que la Corée du Nord est en train de rouler tout le monde dans farine. Ils roulent la Corée du Sud dans farine. On a appris il y a quelques jours de ça que le programme de dénucléarisation qu'on attendait à la suite du sommet entre Trump et Kim Jong-un, ben ça semble pas, en tout cas, il semble pas sur la voie la dénucléarisation. Hein?
Est-ce que ça t'étonne?
Ben non, pas du tout. J'ai toujours pensé qu'au jeu d'échecs, Kim Jong-un était pas mal meilleur que Trump.
Non. Et puis on a appris, une autre chose qu'on a appris, c'est que figure-toi qu'il y a des entreprises sud-coréennes qui avaient importé du charbon nord-coréen, ce qui est totalement interdit, en le faisant passer pour du charbon russe. Alors là, il y a une duplicité qui s'installe dans la société sud-coréenne. Et la question que les gens posent, c'est celle que tu poses là. Mais en plus, si les gens se disent, mais écoutez, est-ce que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont pas en train de se rapprocher aux dépens des États-Unis? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud? Et c'est ça la question qu'on pose à travers tout ça.
Absolument. Parlons un tout petit peu des États-Unis qui accusent la Chine de vouloir dominer le monde.
Oui, c'est assez curieux. C'est que le Salvador vient de décider de rejoindre, si tu veux, l'ensemble des pays du monde quasiment, mais de ne plus reconnaître Taïwan et de reconnaître la Chine continentale comme étant le représentant de la Chine. La Chine fait ça en général en achetant. Tu sais que dans tous ces pays du monde, il y a des enchères incroyables entre Taïwan et la Chine continentale, à savoir les pays, j'entends, qui reconnaissent Taïwan, se font payer par Taïwan toutes sortes de choses, se font promettre par la Chine toutes sortes de choses s'ils acceptent de délaisser Taïwan et de rejoindre la Chine. Et donc, le Salvador vient de rejoindre ce groupe, vient de délaisser Taïwan et de rejoindre la Chine, comme la plupart des pays du monde. Je pense qu'il y a plus que 27 pays dans le monde qui reconnaissent Taïwan et qui ne reconnaissent pas la Chine. C'est très peu, très, très peu. Or, les États-Unis, là-dessus, tu dis, on parlait de péter une coche, se sont vraiment choqués. On dit, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez offert au Salvador des conditions incroyables. Vous les avez achetées. En plus, vous leur avez promis des conditions de prêt qu'ils ne peuvent pas rencontrer. Ce que vous faites, c'est qu'à travers tous vos prêts, vous êtes en train de prêter à des pays de l'argent qu'ils ne pourront jamais rembourser, et vous êtes en train donc de contrôler financièrement tous ces pays, parce qu'ensuite, comme ils peuvent pas rembourser, vous leur demandez des conditions pour prolonger le prêt qui sont inacceptables. Ces pays n'ont pas le choix d'accepter. Et donc, vous êtes en train d'essayer de contrôler le monde entier. Les États-Unis sont pas les seuls à dire ça. En Malaisie, au Vietnam, en Indonésie, un peu partout à travers le monde, il y a un tas de pays qui ont accepté des prêts chinois, qui sont pas capables de les rembourser et qui se retrouvent...
La Chine leur fait payer.
La Chine leur fait payer très cher, avec des concessions sur leurs matières premières, sur leurs ressources en poissons.
Mais sur leur politique étrangère aussi, vis-à-vis de Taïwan.
Voilà. Alors les États-Unis commencent, dirait-on, un peu à se réveiller dans ce qui est leur cour arrière, puisque c'est l'Amérique latine. Mais tu sais, c'est déjà un combat un peu perdu d'avance. Parce que la Chine est devenue le plus grand partenaire commercial de tous ces pays d'Amérique latine. Les États-Unis ont dormi au gaz et maintenant...
On a vu la même chose en Afrique.
Le combat est entre les États-Unis, la France, la Chine, enfin l'Europe le plus généralement et la Chine. Et la Chine prend de plus en plus de place en Afrique depuis 30 ans.
Loïc Tassé, spécialiste des questions internationales. À lundi, bonne fin de semaine.
À lundi, salut.
Dans un instant, le monde de Paul Oud, il va nous parler de l'eau sur la Lune. Il est passionné, notre Paul, dans un instant.